Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Billy Van Lutumba.
Pour votre édification, vous suivrez en ouverture de cette édition des explications de Madame la gouverneure de la BCC Banque Centrale du Congo sur sa demande aux établissements de crédit et sociétés financières de paramétrer leurs terminaux de paiement en francs congolais. Ces explications que Radio Kapi vous propose, c'est à la suite des nombreuses interrogations au sein de la population. Autre nouvelle d'actualité alignée également dans ce journal, c'est le satisfecit de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, après les consultations qu'il a initiées auprès de ses pairs parlementaires de l'Union sacrée pour l'investiture prochaine du gouvernement souminois. Myriam Fadier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu, est invitée de ce journal. Elle fait le point sur la distribution de l'aide dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga. Restez donc branchés sur Radio Okapi pour vous édifier et en savoir assez sur d'autres contours de l'actualité congolaise. Aimable auditeur, merci de cet excellent choix à vous informer sur cette fréquence. Bienvenue et meilleures conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. En réponse à l'avalanche des réactions que la décision de la Banque centrale du Congo a suscité dans l'opinion, Madame la gouverneure de la Banque centrale confirme que la lettre adressée aux établissements de crédit et sociétés financières leur demandant de paramétrer leurs terminaux de paiement en francs congolais est bel et bien partie de la Banque centrale avec sa signature. Malangu Kabedi intervient pour clarifier la compréhension des uns et des autres dans cet extrait que nous propose Daniel Tambizoni.
Elle dit ceci. J'ai l'avantage de porter à votre connaissance que la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur des paiements en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement en juillet 2023, présidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services, notamment de consommation courante via l'utilisation des terminaux de paiement électronique dans les commerces. Alors, j'ai bien insisté sur le mot terminaux de paiement électronique dans les commerces. Et c'est ici que la clarification devient importante. Il s'agit des terminaux qui sont dans les magasins, à la caisse. Lorsque un client a fini de faire ses courses et qu'il arrive à la caisse pour payer, il peut payer avec des billets, tout comme il peut payer avec une carte bancaire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets.
Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Des difficultés logistiques et financières entravent le fonctionnement de tous les 5 conseils communaux de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Les bureaux de ces institutions parlementaires ne disposent pas d'infrastructures pour les abriter. Stéphane Munzenza, un conseiller communal de la commune de Manunga, indique que ces conseils disent être délaissés à leur triste sort et manquent des frais de fonctionnement depuis leur installation, cela depuis 4 mois. Irène Bouma.
Depuis leur installation en février dernier, les conseils communaux de la ville de Kenge sont dépourvus de locaux devant leur servir de cabinet de travail. Les archives sont portées à la main et les élus se cotisent à chaque fois pour louer des salles publiques afin de tenir des plénières. C'est ce que déclare Stéphane Munzenza, élu de la commune de Manunga.
Nous nous débrouillons, nous nous cotisons dans l'ordre de 25 000 francs, 30 000 francs congolais pour prendre en location une salle de fête, tantôt pour louer des chaises, pour la sonorisation, et ça nous met à mal. Et notre administration est gardée par les honorables conseillers rapporteurs, soit conseillers présidents qui se promènent avec les cachets, avec les documents. Donc nous n'avons pas d'infrastructure de conseillers communaux.
Les conseillers communaux de Kenge n'ont jamais reçu ne serait-ce qu'un seul rond de la part de l'État congolais, ajoute-t-il.
Je peux vous affirmer que nous n'avons depuis le début reçu aucun sou de l'État congolais, aucune motivation.
Stéphane Munzenza indique qu'actuellement, les conseils communaux du chef-lieu de la province du Kwango comptent entrer en contact avec les bourgmestres pour notamment procéder au contrôle au niveau des différentes communes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette clôture hier mercredi tard dans la nuit des concertations initiées par le président de l'Assemblée nationale en vue de l'investiture du gouvernement souminois. Vital Kamerhe se félicite d'avoir balisé le chemin avec une majorité parlementaire consolidée favorable. Après avoir échangé pendant 2 jours avec des délégations de tous les partis et regroupements ayant plus de 10 députés nationaux, Vital Kamerhe affirme que son bureau a obtenu le quitus de la majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement souminois. S'adressant à la presse, le président de la Chambre basse du Parlement souligne que les députés ont privilégié l'intérêt du peuple même si leurs revendications ne sont pas rencontrées, mais il s'engage à analyser de près le programme du gouvernement pour booster le développement de la RDC. Vital Kamerhe s'exprime au micro de Michel Kifinda.
Moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Les députés ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de se sont patriotiques d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général. De notre peuple, je ne reviendrai pas sur la question à tout moment, qui souffre non seulement par la guerre vous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population.
Autre actualité au niveau du Parlement, nous parlons de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Ituri et de la Tchopo. Des caucus des élus des deux provinces sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale dans la pacification urgente de cette partie du pays. Au cours d'une audience leur accordée hier, mercredi, par le président Vital Kamerhe, les députés de l'Ituri se disent vivement préoccupés par l'activisme des CODECO qui occasionne des kidnappings, braquages, tueries et une forte crise humanitaire dans plusieurs territoires de la province. Les élus de la Tchopo, quant à eux, sont préoccupés par le conflit meurtrier entre la communauté Mbole et Lingola qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive sur de la ville de Kisangani. Michel Kifindango.
À en croire le caucus des députés de la Tchopo, les conflits entre la communauté Mbole et Lingola est à la base non seulement de plusieurs tueries, mais aussi des déplacés massifs de la population de Lubunga vers Kisangani. Le conflit prend l'ampleur et a atteint les territoires de Bundu, Opala et Isangi, affirment les élus.
Tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficile et inhumaine.
Du côté de l'Ituri, les territoires de Mahagi, Aru, Djougou et Irumu vivent une hécatombe sécuritaire qui plonge la population dans un total désarroi, affirment à Vital Kamerhe les élus de cette province. Daniel Uyewa.
Le président nous a déjà rassuré qu'il va s'impliquer lui-même pour plaider la cause de l'Ituri et nous allons voir qu'avec son implication, l'Ituri peut bel et bien recouvrir la paix.
Répondant à leur sollicitation, le président de l'Assemblée nationale rassure de son implication dans la recherche de la paix en Ituri et dans la Tchopo. Vital Kamerhe annonce par ailleurs une mission humanitaire des députés pour assister les victimes et s'enquérir de la situation de terrain avant d'en débattre à l'hémicycle.
Dans le Nord Kivu à présent, le président du site des déplacés de guerre de la commune rurale de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero plaide pour une assistance aux déplacés qui ont fui récemment les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région. Il appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités après l'annonce du comité international de la Croix-Rouge CICR de la suspension de son assistance aux déplacés pour une durée de 10 jours. Richard Kaloumé ajoute que plus de 30 000 nouveaux ménages ont fui ces derniers jours l'avancée des rebelles du M23 vers Kanyabayonga, où ils vivent actuellement sans assistance dans le sud du territoire de Lubero. Richard Kaloumé, président du site des déplacés des guerres de la commune rurale de Kanyabayonga, est joint au téléphone par André Kitenge.
Il faut signaler que même ceux qui venaient de recevoir leur assistance, de vivre de la part du CICR, se sont vus aussi obligés de fuir à nouveau. Ils ont tout abandonné dans leur maisonnette et aujourd'hui ils sont éparpillés dans les différents villages du sud du territoire de Lubero. C'est pourquoi nous sommes vraiment en train d'appeler notre gouvernement. Nous insistons que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous appelons également les organisations humanitaires de se focaliser à cette question. question de se positionner dans la partie sud du territoire de Lubero qui a accueilli beaucoup de déplacés. Malheureusement, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, aucune organisation humanitaire n'est arrivée dans la zone, même pour une simple salutation. Jusqu'à présent, il n'y a aucune initiative de la part du gouvernement pour soulager tant soit peu ces déplacés qui sont en train de mourir de la faim. Pourquoi les déplacés meurent de faim? Les déplacés n'ont pas accès aux soins médicaux. Les déplacés n'ont pas à manger. Les déplacés n'ont pas accès à l'eau potable.
Éclairage sur cette suspension de la distribution de l'aide alimentaire aux déplacés de Bwito à Kanyabayonga. Le CICR indique que ses équipes dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga étudient toutes les options pour voir comment ces déplacés pourront être assistés. Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu, déplore les conditions difficiles que traversent ces déplacés. Elle indique que la décision de suspendre la distribution de l'aide était une décision difficile. Elle l'a dit à Rosalie Zawadi.
Nous, le CICR, nous avons été forcés d'interrompre notre distribution puisque ces gens sont en mouvement. Cependant, nos équipes sont toujours sur place entre Kirumba et Kanyabayonga et nous soutenons notamment les centres de santé de la zone pour qu'ils puissent répondre d'une meilleure manière aux besoins des blessés pour les stabiliser et éventuellement même les évacuer. Pour l'instant, on essaie de comprendre si les gens vont revenir vers là où ils étaient et là où on devait les assister et les aider, ou s'ils vont élire quelque part domicile de manière plus prolongée dans les nouveaux endroits au sud Lubero.
Je vous le rappelle, ainsi que je l'ai annoncé dans le sommaire, Myriam Favier est invitée de ce journal dans quelques minutes. Nord Kivu, encore une trentaine de maisons sont parties en fumée ces deux derniers jours dans des incendies successifs des maisons d'habitation à Sake. C'est respectivement à Kimoka et au quartier Mayutsa, mardi, avant celui survenu au quartier Virunga, hier mercredi vers 15h locale dans cette partie du territoire de Masisi. La société civile du groupement de Kamuronza déplore ces incidents qui arrivent alors que les propriétaires se trouvent pour la plupart d'entre eux dans des sites des déplacés à Goma. Ces incendies successifs s'ajoutent à une liste des pillages et des destructions des domiciles de ces familles déplacées, ajoute le président de cette structure. Léopold Mouicha plaide pour une action des autorités. Il est joint ici par Bernard Nyangi.
La situation qui prévaut à Sake aujourd'hui, c'est vraiment révoltante du fait qu'une cité qui est totalement occupée par les forces armées et les VDP, des maisons soient incendiées en pleine journée sans que les autorités ne puissent donner les vraies informations sur les auteurs. Comme vous le savez, notre population depuis février s'était déplacée vers Mugunga, d'autres dans la ville de Goma. Nous avions décrié le fait que des maisons avaient été pillées, des portes emportées, d'autres sont en train d'être détruites et des matériels sont en train d'être vendus à Goma. Et aujourd'hui, voilà, les maisons sont en train d'être incendiées. Seulement du 2 au 5, nous sommes à peu près 50 maisons incendiées, malheureusement sans aucune enquête. Donc nous lançons vraiment un SOS aux autorités de se pencher dans l'urgence à cette question pour que le pire n'arrive. Parce que au niveau des camps de déplacés, la population est vraiment en colère. Il y a des femmes tombées évanouies, l'une continue à poursuivre les soins.
Contacté, le chef du gouvernement de Kamuronza a dit qu'un rapport a déjà été adressé aux autorités provinciales sur cette situation. Et puis, Le Monde a célébré le 5 juin le 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement, occasion de sensibiliser aux efforts de protection et de restauration de la terre. À Kinshasa, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la saleté dans laquelle la ville se trouve, que ce soit à la cité ou au centre-ville. Des poubelles débordent là où il y en a, d'autres sont créées délibérément un peu partout. Beaucoup plus, ce sont les déchets plastiques qui sont très visible. Et aussi, avant de passer à la page internationale, un forum sur la conservation de l'environnement, la paix et la sécurité se tient à Bukavu entre la commission diocésaine justice et paix de Bukavu et celle de Tchangungo, Rwanda. Les deux commissions diocésaines voisines conviennent que les conflits politiques entre leurs États ne doivent pas affecter les relations interreligieuses.
Actualité internationale.
L'Espagne est devenue jeudi le premier pays européen à demander à un tribunal des Nations Unies l'autorisation de se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud accusant Israël des génocides à Gaza. L'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière. Elle a affirmé qu'Israël a violé la Convention sur les génocides dans le cadre de son assaut militaire qui a dévasté une grande partie de la bande de Gaza. Et puis, des violentes tornades ont touché les provinces du sud-est et de l'est de l'Afrique du Sud.
Dans le KwaZulu-Natal, les inondations ont causé de nombreux dégâts, arrachant la vie à 11 personnes dans les villes près de Newcastle et Utrecht. La ville de Tongaet est la plus touchée. La tornade s'est ensuite déplacée vers la côte à Westbrook et Balito, laissant des dégâts plus importants.
L'invité.
Dans le Nord Kivu, les équipes du CICR restent dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga 6 jours après la suspension de la distribution de l'aide humanitaire par cette organisation internationale. Une suspension due au rapprochement des combats de la zone de Kanyabayonga, combats qui ont amené les déplacés présents dans cette cité à se déplacer de nouveau. Pour en parler, nous recevons Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Myriam Favier, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 30 mai, le CICR a suspendu la distribution de l'aide alimentaire aux déplacés de Buito qui s'est trouvé à Kanyabayonga. 6 jours après, où est-ce que vous en êtes?
Vous savez, depuis janvier, il y a des déplacés dans la zone de Kanyabayonga qui viennent des territoires de Rutshuru, de Masisi notamment, et qui étaient partis pour fuir les combats qui avaient lieu autour de ces zones-là et dans ces zones-là. Maintenant, c'est vrai que le CICR tentait d'aider une partie des 165 000 personnes qui étaient déplacées autour de Kanyabayonga et Bulindi notamment. Le CICR devait aider 58 000 personnes lors de cette distribution de vivres, donc de nourriture. Et nous avons pu couvrir 29 000 personnes. Donc les personnes se sont déplacées à cause des affrontements qui se rapprochaient de Kanyabayonga. 6 jours plus tard, ces personnes sont toujours déplacées et nous, le CICR, nous avons été forcés d'interrompre notre distribution puisque ces gens sont en mouvement. Cependant, nos équipes sont toujours sur place entre Kirumba et Kanyabayonga et nous soutenons notamment les centres de santé de la zone pour qu'ils puissent répondre d'une meilleure manière aux besoins des blessés, pour les stabiliser et éventuellement même les évacuer.
Selon vos équipes dans la zone, dans quelle situation se trouvent aujourd'hui ces déplacés qui ont été obligés de se déplacer encore une nouvelle fois?
Je pense qu'il faut juste imaginer que se déplacer une fois, c'est déjà extrêmement compliqué. Donc en général, vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Vous partez avec un minimum de choses. Pas d'argent, pas de vêtements, pas de nourriture, seulement votre famille, vos enfants que vous prenez avec vous à la hâte, direction une zone que vous ne connaissez pas souvent ou vous ne connaissez personne. Donc on imagine bien que le faire une seconde fois ou une troisième fois pour certains, ça les rend encore plus vulnérables à chaque fois. Donc ces personnes-là sont pour la plupart dans ces conditions-là. On n'a pas d'informations actuellement sur leurs conditions de vie nécessairement. On imagine qu'ils essaient d'être dans des familles d'accueil dans les zones de Kirumba ou Miriki, donc au nord et plutôt sur l'axe ouest au niveau de Kanyabayonga.
Vous ne prévoyez pas des mécanismes pour reprendre l'assistance là où ils se sont déplacés?
Pour l'instant, on essaie de comprendre si les gens vont revenir vers là où ils étaient et là où on devait les assister et les aider, ou s'ils vont élire quelque part domicile de manière plus prolongée dans les nouveaux endroits au sud du Bérou.
Les CICR a accès dans les zones occupées par les 1-23 dans la zone. Quelles sont vos interventions là-bas?
Bon, le CICR, vous savez, son mandat, c'est de protéger et d'assister les personnes qui sont victimes de conflits armés. Il y a pas de différence pour nous sur les zones d'intervention. Ce qu'on fait, c'est qu'on assiste les populations en fonction de leurs besoins. Donc, on assiste en eau, on assiste en vivre, parfois, quand c'est nécessaire et qu'il n'y a pas d'autres acteurs. Et puis surtout, on fait un travail de protection avec les porteurs d'armes, notamment de toutes les parties au conflit, pour prévenir un minimum les conséquences humanitaires sur la population civile. L'année dernière, par exemple, on a fait une distribution de nourriture à Nyanzale pour les déplacés de la zone. On avait également soutenu le centre de santé de Nyanzale, donc ça veut dire un accès aux soins gratuits pour la population. Et cette année, depuis le 1er juin, on soutient les centres de santé de Bambou et Kabizo.
Myriam Favier, je rappelle que vous êtes chef des sous-délégations d'ICICR au Nord Kivu. Merci.
Merci beaucoup.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition du journal préparée par l'ensemble de toute la rédaction en vous signalant que Deps Vita assurait la prise des soins et la mise en onde et Billy Van Lutumbe était au micro pour la présentation.